Chapitre 13, le corps et l'âme, l'âme et le corps, la portière de Mara. Le dernier resté près du maître fut Mara, le chirurgien. Il s'approcha humblement et fort pâle du terrible orateur dont la puissance était illimitée. « Maître, demanda-t-il, ai-je donc en effet commis une faute ?»« Une grande, monsieur, dit Balsamo, et ce qu'il y a de pis, c'est que vous ne croyez pas l'avoir commise. »« Eh bien oui, je l'avoue. Non seulement je ne crois pas avoir commis une faute, mais je crois avoir parlé comme il convient. »« Orgueil, orgueil, murmura Balsamo, orgueil, démon destructeur. » Les hommes vont combattre la fièvre dans les veines du malade, la peste dans les eaux et dans les airs, mais ils laissent l'orgueil pousser de si profondes racines dans leur cœur qu'ils ne peuvent parvenir à l'extirper. « Oh maître, dit Mara, vous avez de moi une bien triste opinion. Suis-je donc en effet si peu de choses que je ne puisse compter parmi mes semblables ? Ai-je si mal recueilli le fruit de mes travaux que je sois incapable de dire un mot sans être taxé d'ignorance ? Suis-je donc un si tiède adepte que l'on suspecte ma conviction ? N'eussais-je que cela, j'existe au moins par le dévouement à la sainte cause du peuple. Monsieur, répliqua Balsamo, c'est parce que le principe du bien lutte encore en vous contre celui du mal, qui me paraît devoir l'emporter un jour, que je tenterai de vous corriger de ses défauts. Si je dois y réussir, si l'orgueil ne l'a pas déjà emporté en vous sur tout autre sentiment, j'y réussirai en une heure. « En une heure, dit Mara. Oui. Voulez-vous me donner 7 heures ? Certainement. Où vous verrai-je ? Maître, c'est à moi d'aller vous trouver au rendez-vous que vous voudrez bien fixer à votre serviteur. »« Eh bien, dit Balsamo, j'irai chez vous. Faites attention à l'engagement que vous prenez, maître. J'habite une mansarde rue des Cordeliers. Une mansarde, vous entendez ? Dit Mara, avec une affectation de simplicité orgueilleuse, avec une fanfaronnade de misère qui n'échappa point à Balsamo. Tandis que vous, vous habitez, disons, un palais. » Celui-ci haussa les épaules comme ferait un géant qui, du haut de sa taille, mesurerait les colères d'un nain. « Eh bien, soit, monsieur, répondit-il, j'irai vous voir dans votre mansarde. »« Quand cela, monsieur ? Demain. »« À quelle heure ? Le matin. »« C'est qu'au point du jour, je vais à mon amphithéâtre et de là à l'hôpital. »« Précisément, c'est ce qu'il me faut. Je vous eusse demandé de m'y conduire si vous ne me l'eussiez pas proposé. »« Vous entendez de bonne heure. Je dors peu, dit Mara. » « Et moi, je ne dors pas, » répondit Balsamo. « Ainsi donc, au point du jour, je vous attendrai. » Là-dessus, ils se séparèrent, car ils étaient arrivés à la porte de la rue, aussi sombre et aussi solitaire au moment de leur sortie qu'elle était peuplée et bruyante au moment de leur entrée. Balsamo prit à gauche et disparut rapidement. Mara l'imita en tirant à droite avec ses jambes longues et grêles. Balsamo fut exact. À 6 heures du matin, il heurtait le lendemain à la porte du palier qui, centre d'un long corridor percé de 6 portes, formait le dernier étage d'une vieille maison de la rue des Cordeliers. Mara, on le voyait bien, avait tout préparé pour recevoir plus dignement son hôte illustre. Le maigre lit de noyer, la commode à dessus de bois, reluisait de propreté sous le chiffon de laine d'une femme de ménage qui s'escrimait à tour de bras sur ses meubles vermoulus. Mara lui-même prêtait une aide active à cette femme et rafraîchissait dans un petit pot de faïence bleue des fleurs pâles et étiolées, le principal ornement de la mansarde. Il tenait encore un torchon de toile sous le bras, ce qui indiquait qu'il n'avait touché aux fleurs qu'après avoir donné son coup de main au meuble. Comme la clé était à la porte et que Balsamo était entré sans frapper, il surprit Mara dans cette occupation. Mara, à la vue du maître, rougit beaucoup plus qu'il ne convenait à un stoïcien véritable. « Vous voyez, monsieur, dit-il en jetant sournoisement derrière un rideau le torchon révélateur, je suis homme de ménage et j'aide à cette bonne femme. Je choisis l'ouvrage, par exemple, ce qui n'est peut-être pas d'un bon plébéien, mais qui n'est pas non plus tout à fait d'un grand seigneur. C'est d'un jeune homme pauvre et qui aime la propreté, dit froidement Balsamo, voilà tout. Êtes-vous bientôt prêt, monsieur ? Vous savez que mes moments sont comptés. Je passe mon habit, monsieur. Dame Grivette, mon habit. C'est ma portière, monsieur. C'est mon valet de chambre, c'est ma cuisinière, c'est mon intendant. Elle me coûte un écu par mois. Je loue l'économie, dit Balsamo. C'est la richesse des pauvres, c'est la sagesse des riches. Mon chapeau, ma canne, dit Marat. Allongez la main, dit Balsamo. Voilà votre chapeau et sans doute cette canne qui est près du chapeau est la vôtre. Oh, pardon, monsieur, je suis tout confus. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur. Ma montre, dame Grivette. Dame Grivette se tourna et se retourna, mais ne répondit point. Vous n'avez pas besoin de montre, monsieur, pour aller à l'amphithéâtre et à l'hôpital. On serait peut-être longtemps à la retrouver, et cela nous retarderait. Cependant, monsieur, je tiens beaucoup à ma montre, qui est excellente et que j'ai achetée à force d'économie. En votre absence, dame Grivette la cherchera, répondit Balsamo avec un sourire, et si elle cherche bien, à votre retour, elle sera retrouvée. Oh, certainement, dit dame Grivette, elle sera retrouvée, si toutefois monsieur ne l'a pas laissée ailleurs, rien ne se perd ici. Vous voyez bien, dit Balsamo, allons, monsieur, allons. Marat n'osa point insister et suivit Balsamo tout en grommelant. Lorsqu'ils furent à la porte, où allons-nous d'abord, dit Balsamo. « À l'amphithéâtre, si vous voulez, maître, j'y ai désigné un sujet qui a dû mourir cette nuit d'une méningite aiguë. J'ai des observations à faire sur son cerveau, et je ne voudrais pas que mes camarades me le prissent. Allons donc à l'amphithéâtre, monsieur Marat, d'autant plus que c'est à deux pas d'ici, que l'amphithéâtre touche à l'hôpital, et que nous ne faisons qu'entrer et sortir. Vous pouvez même m'attendre à la porte. » « Au contraire, je désire entrer avec vous. Vous me direz votre opinion sur le sujet. »« Quand il était un corps, monsieur ?»« Non, depuis qu'il est un cadavre. »« Oh là, prenez-y garde, » dit Marat en souriant. « Je pourrais gagner un point sur vous, car je connais cette partie de ma profession ici, dit-on, un assez habile anatomiste. » « Orgueil, orgueil, toujours orgueil !» murmura Balsamo. « Que dites-vous » demanda Marat. « Je dis que nous allons voir cela, monsieur, » répliqua Balsamo. « Entrons !» Marat s'engagea le premier dans l'allée étroite qui conduisait à cet amphithéâtre situé au bout de la rue Hautefeuille. Balsamo le suivit, sans hésiter, jusque dans la salle longue et étroite, où, sur une table de marbre, on voyait deux cadavres étendus, l'un de femme, l'autre d'homme. La femme était morte jeune, l'homme était vieux et chauve. Un méchant suaire leur voilait le corps, en laissant leur visage à moitié découvert. Tous deux étaient couchés, côte à côte, sur ce lit glacé, eux qui jamais peut-être ne s'étaient vus en ce monde, et dont les âmes, voyageant alors dans l'éternité, devaient être bien surprises de voir un pareil voisinage à leurs enveloppes mortelles. Marat leva et jeta de côté d'un seul mouvement le linge grossier qui couvrait les deux malheureux que la mort avait fait égaux devant le scalpel du chirurgien. Les deux cadavres étaient nus. « La vue des morts ne vous répugne-t-elle pas ?» dit Marat, avec sa fanfaronnade ordinaire. « Elle m'attriste, » répliqua Balsamo. « Défaut d'habitude, » dit Marat. « Moi qui vois le spectacle tous les jours, je n'en éprouve ni tristesse ni dégoût. Nous autres, praticiens, voyez-vous, nous vivons avec les morts, et nous n'interrompons pour eux aucune des fonctions de notre vie. C'est un triste privilège de votre profession, monsieur. » Et puis, ajouta Marat, pourquoi m'attristerais-je ou pourquoi me dégoûterais-je? Dans le premier cas, j'ai la réflexion, dans le second, j'ai l'habitude. Expliquez-moi vos idées, dit Balsamo, je les comprends mal. La réflexion, d'abord. Soit, pourquoi m'effraierais-je? Pourquoi aurais-je peur d'un corps inerte, d'une statue qui est de chair au lieu d'être de pierre, de marbre ou de granit? En effet, il n'y a rien, n'est-ce pas, dans un cadavre? Rien, absolument rien. « Vous le croyez ? J'en suis sûr. Mais dans un corps vivant, il y a le mouvement, » dit superbement Marat. « Et l'âme, vous n'en parlez pas, monsieur ? Je ne l'ai jamais vue dans les corps que j'ai fouillés avec mon scalpel. »« Parce que vous n'avez fouillé que des cadavres. »« Oh, si fait, monsieur, j'ai fort opéré sur les corps vivants. »« Vous n'avez rien trouvé en eux de plus que dans les cadavres ?» Si fait, j'ai trouvé la douleur. Est-ce la douleur que vous appelez l'âme? Alors, vous n'y croyez pas? À quoi? À l'âme. J'y crois. parce que je suis libre de l'appeler le mouvement, si je veux. Hein, voilà qui est fort bien. Vous croyez à l'âme, c'est tout ce que je vous demandais. Cela me fait du bien que vous y croyiez. Un instant, mon maître. Entendons-nous et surtout, n'exagérons pas, dit Marat, avec son sourire de vipère. Nous autres, praticiens, nous sommes un peu matérialistes. Ces corps sont bien froids, dit Balsamo rêveur, et cette femme était bien belle. Mais oui, une belle âme eût certes bien été à ce beau corps. Ah, voilà où fut l'erreur de celui qui l'accueilla. Beau fourreau, vilaine lame. Ce corps, mon maître, était celle d'une coquine qui sortait de Saint-Lazare lorsqu'elle mourut d'une inflammation cérébrale à l'Hôtel Dieu. Sa chronique est longue et passablement scandaleuse. Si vous appelez âme le mouvement qui faisait agir cette créature, vous ferez tort à nos âmes, qui doivent être de la même essence. Âme qu'on eût dû guérir, dit Balsamo, et qui s'est perdue, faute du seul médecin qui soit indispensable, d'un médecin de l'âme. Hélas, hélas, mon maître, c'est encore là une de vos théories. Il n'y a de médecin que pour les corps, dit Marat, avec un sourire amer. Et tenez, maître, vous avez en ce moment sous les lèvres un mot de Molière, qu'il a souvent mis dans ses comédies, et c'est ce mot qui vous fait sourire. Non, dit Balsamo, vous vous trompez et ne pouvez savoir à quelle chose je souris. Pour le moment, ce que nous concluons, n'est-ce pas, c'est que ces cadavres sont vides. Et insensibles, dit Marat, en soulevant la tête de la jeune femme et en la laissant retomber bruyamment sur le marbre sans que le corps eût seulement bougé ou frémi. Très bien, dit Balsamo, passons à l'hôpital maintenant. « Un instant, maître, pas avant, je vous prie, que j'ai détaché du tronc cette tête qui me fait envie et qui a été le siège d'une maladie fort curieuse. Vous permettez ?»« Comment donc ?» dit Balsamo. Marat ouvrit sa trousse, en tira un bistouri et ramassa dans un coin un gros maillet de bois tout pointillé de taches de sang. Alors, d'une main exercée, il pratiqua une incision circulaire qui sépara toutes les chairs et tous les muscles du cou. Puis, arrivé à l'os, il glissa son bistouri entre deux jointures de la colonne vertébrale et frappa dessus avec le maillet un coup énergique et sec. La tête roula sur la table et de la table à terre. Marat fut obligé de la ressaisir de ses mains humides. Balsamo se détourna pour ne pas donner trop de joie au triomphateur. Un jour, dit Marat, qui croyait prendre le maître en faiblesse, un jour quelque philanthrope s'occupera de la mort comme les autres s'occupent de la vie, trouvera une machine qui détachera ainsi la tête d'un seul coup et qui rendra l'anéantissement instantané, ce que ne fait aucun des autres genres de mort. La roue, l'écartèlement et la pendaison sont des supplices appartenant à des peuples barbares et non à des peuples civilisés. Une nation éclairée comme la France doit punir et non se venger, car la société qui roue, qui pend ou qui écartèle se venge du criminel par la souffrance avant de le punir par la mort, ce qui est trop de moitié, à mon avis. Et au mien aussi, monsieur, mais comment comprenez-vous cet instrument ? Je comprends une machine froide et impassible, comme la loi elle-même. L'homme chargé de punir s'impressionne à la vue de son semblable et parfois manque son coup, comme il est arrivé pour Chalet et pour le duc de Monmouth. Ce n'en serait pas ainsi d'une machine, de deux bras de chêne qui ferait mouvoir un coutelas, par exemple. Et croyez-vous, monsieur, que parce que ce coutelas passerait avec la rapidité de la foudre entre la base de l'occiput et les muscles trapèzes, croyez-vous que la mort serait instantanée et la douleur rapide ? La mort serait instantanée, sans contredit, puisque le fer trancherait d'un coup les nerfs qui donnent le mouvement. La douleur serait rapide, puisque le fer séparerait le cerveau, qui est le siège des sentiments, du cœur, qui est le centre de la vie. Monsieur, dit Balsamo, le supplice de la décapitation existe en Allemagne. Oui, mais par l'épée, je vous l'ai dit, la main de l'homme peut trembler. Une pareille machine existe en Italie, un corps de chêne l'a fait mouvoir, et on l'appelle la manania. Eh bien, monsieur, j'ai vu des criminels décapités par le bourreau se lever sans tête du siège où ils étaient assis et s'en aller en trébuchant, tomber à 10 pas de là. J'ai ramassé des têtes qui roulaient au bras de la Manania, comme cette tête que vous tenez par les cheveux, et a roulé tout à l'heure au bas de cette table de marbre, et en prononçant à l'oreille de cette tête le nom dont on l'avait baptisée pendant sa vie, j'ai vu ses yeux se rouvrir et se tourner dans leur orbite, cherchant à voir qui les avait appelés de la terre pendant ce passage du temps à l'éternité. Mouvement nerveux, pas autre chose. Les nerfs ne sont-ils pas l'organe de la sensibilité? Que concluez-vous là, monsieur? Je conclus qu'il vaudrait mieux qu'au lieu de chercher une machine qui tua pour punir, l'homme cherchât un moyen de punir sans tuer. Elle sera la meilleure et la plus éclairée des sociétés, croyez-moi, la société qui aura trouvé ce moyen-là. Utopie encore, utopie toujours, dit Marat. Cette fois, vous avez peut-être raison, dit Balsamo, le temps nous éclairera. N'avez-vous point parlé de l'hôpital? Allons-y. Allons. Et il enveloppa la tête de la jeune femme dans son mouchoir de poche dont il noua soigneusement les quatre coins. Maintenant, dit en sortant Marat, je suis sûr au moins que mes camarades n'auront que mon reste. On prit le chemin de l'Hôtel Dieu, le rêveur et le praticien marchaient côte à côte. « Vous avez coupé très froidement et très habilement cette tête, monsieur, dit Balsamo. Avez-vous moins d'émotion quand il s'agit des vivants et non des morts? La souffrance vous touche-t-elle plus que l'immobilité? Êtes-vous plus pitoyable au corps qu'au cadavre? Non, ce serait un défaut comme c'en est un au bourreau de se laisser impressionner. » On tue aussi bien un homme en lui coupant mal la cuisse qu'en lui coupant mal la tête. Un bon chirurgien doit opérer avec sa main et non avec son cœur, quoiqu'il sache bien en son cœur que pour une souffrance d'un instant, il donne des années de vie et de santé. C'est là le beau côté de notre profession, celui-là, maître. Oui, monsieur, mais sur les vivants, vous rencontrez l'âme, j'espère. « Oui, si vous convenez avec moi que l'âme, c'est le mouvement ou la sensibilité. Oui, certes, je la rencontre, et bien gênante même, car elle tue plus de malades que n'en tue mon scalpel. » On était arrivé au seuil de l'Hôtel Dieu. Ils entraient à l'hospice. Bientôt, guidé par Marat, qui n'avait pas quitté son sinistre fardeau, Balsamo put pénétrer dans la salle des opérations, envahie par le chirurgien en chef et par les élèves de chirurgie. Les infirmiers venaient d'apporter là un jeune homme, renversé la semaine précédente par une lourde voiture dont la roue lui avait broyé le pied. Une première opération faite à la hâte sur le membre engourdi par la douleur n'avait pas suffi. Le mal s'était développé rapidement, l'amputation de la jambe était devenue urgente. Ce malheureux, étendu sur le lit d'angoisse, regardait avec un effroi qui eût attendri des tigres cette bande d'affamés qui épiaient l'instant de son martyre, de son agonie peut-être, pour étudier la science de la vie, phénomène merveilleux derrière lequel se cache le sombre phénomène de la mort. Il semblait demander à chacun des chirurgiens, des élèves et des infirmiers une consolation, un sourire, une caresse, mais il ne rencontrait partout que l'indifférence avec son cœur, que l'acier avec ses yeux. Un reste de courage et d'orgueil le rendait muet. Il réservait toutes ses forces pour les cris qu'allait bientôt lui arracher la douleur. Cependant, quand il sentit sur son épaule la main pesamment complaisante du gardien, quand il sentit les bras des aides l'envelopper comme les serpents de Laocoon, quand il entendit la voix de l'opérateur lui dire « du courage. » Il se hasarda, le malheureux, à rompre le silence et à demander d'une voix plaintive « souffrirai-je beaucoup ?»« Non, soyez tranquille, » répondit Marat avec un sourire faux qui fut caressant pour le malade, ironique pour Balsamo. Marat vit que Balsamo l'avait compris. Il se rapprocha et lui dit tout bas « c'est une opération épouvantable, dit-il. L'os est plein de gerçures et sensible à faire pitié. Il mourra, non du mal, mais de la douleur. Voilà ce que lui vaudra son âme à ce vivant. Pourquoi l'opérez-vous alors? Pourquoi ne le laissez-vous pas tranquillement mourir? Parce qu'il est du devoir du chirurgien de tenter la guérison, même quand la guérison lui semble impossible. Et vous dites qu'il souffrira? Effroyablement. Par la faute de son âme, par la faute de son âme qui a trop de tendresse pour son corps. Mais alors, pourquoi ne pas opérer sur l'âme? La tranquillité de l'une serait peut-être la guérison de l'autre. C'est aussi ce que je viens de faire, dit Marat, tandis que l'on continuait à lier le patient. Vous avez préparé son âme? Oui. Comment cela? Mais comme on fait par des paroles. J'ai dit à l'âme, à l'intelligence, à la sensibilité, à la chose qui faisait dire au philosophe grec « Douleur, tu n'es qu'un mal », le langage qui convient à cette chose. Je lui ai dit « Vous ne souffrirez pas ». Reste maintenant à l'âme de ne point souffrir, cela la regarde. Voilà le remède connu jusqu'à présent. Quant aux questions de l'âme, mensonge. Pourquoi aussi cette diablesse d'âme est-elle attachée au corps? Tout à l'heure, quand j'ai coupé cette tête, le corps n'a rien dit. L'opération, cependant, était grave. Mais que voulez-vous? Le mouvement avait cessé, la sensibilité était éteinte, l'âme s'était envolée, comme vous dites, vous autres spiritualistes. Voilà pourquoi cette tête que je coupais n'a rien dit. Voilà pourquoi ce corps que je décapitais m'a laissé faire. Tandis que ce corps que l'âme habite encore va pousser des cris effroyables dans un instant. Bouchez bien vos oreilles, maître, bouchez-les, vous qui êtes sensible à cette connexité des âmes et des corps qui tuera toujours votre théorie jusqu'au jour où votre théorie sera parvenue à isoler le corps de l'âme. Vous croyez qu'on n'arrivera jamais à cet isolement? Essayez, dit Marat, l'occasion est belle. Eh bien oui, vous avez raison, dit Balsamo, l'occasion est belle, j'essaie. Vous essayez? Oui. Comment cela? Je ne veux pas que ce jeune homme souffre, il m'intéresse. Ah, vous êtes un illustre chef, dit Marat, mais vous n'êtes ni Dieu le Père, ni Dieu le Fils, et vous n'empêcherez pas ce gaillard de souffrir. Et s'il ne souffrait point, croiriez-vous à sa guérison? Elle serait plus probable, mais elle ne serait pas sûre. Balsamo jeta sur Marat un inexprimable regard de triomphe, et se plaçant devant le jeune malade, dont il rencontra les yeux effarés et noyés déjà dans les angoisses de la terreur, « Dormez, dit-il, non seulement avec sa bouche, mais encore avec son regard, avec sa volonté, avec toute la chaleur de son sang, avec tout le fluide de son corps. » En ce moment, le chirurgien en chef commençait à palper la cuisse malade et à faire observer aux élèves l'intensité du mal. Mais à ce commandement de Balsamo, le jeune homme qui s'était relevé sur son séant oscilla un instant dans les bras des aides, sa tête se pencha, ses yeux se fermèrent. « Il se trouve mal, dit Marat. Non, monsieur. Mais ne voyez-vous pas qu'il perd connaissance? Non, il dort. Comment il dort? Oui. » Chacun se tourna vers l'étrange médecin que l'on prit pour un fou. Un sourire d'incrédulité passa sur les lèvres de Marat. « Est-il d'habitude que l'on parle pendant l'évanouissement ?» demanda Balsamo. « Non. Eh bien, interrogez-le, il vous répondra. Hé, jeune homme, cria Marat. Hey, « Vous n'avez pas besoin de crier si haut, dit Balsamo. Parlez avec votre voix ordinaire. Dites-nous un peu ce que vous avez. »« On m'a ordonné de dormir et je dors, » répondit le patient. La voix était parfaitement calme et faisait un contraste étrange avec la voix que l'on avait entendue quelques instants auparavant. Tous les assistants se regardèrent. « Maintenant, dit Balsamo, détachez-le. » « Impossible, dit le chirurgien en chef, un seul mouvement et l'opération peut être manquée. Il ne bougera pas. Qui me l'assure? Moi, et puis lui, demandez-lui plutôt. Peut-on vous laisser libre, mon ami? On le peut. Et promettez-vous de ne pas bouger? Je le promets, si vous me l'ordonnez. Je vous l'ordonne. Ma foi, dit le chirurgien en chef, vous parlez avec une telle certitude, monsieur, que je suis tenté de faire l'expérience. Faites et ne craignez rien. Déliez-le, dit le chirurgien en chef. Les aides obéirent. Balsamo passa au chevet du lit. À partir de ce moment, dit-il, ne bougez plus que je ne l'ordonne. Une statue couchée sur un tombeau n'eût pas été plus immobile que ne devint le malade à cette injonction. « Maintenant opérez, monsieur, dit Balsamo, le malade est parfaitement disposé. » Le chirurgien prit son bistouri, mais au moment de s'en servir, il hésita. « Taillez, monsieur, taillez, vous dis-je, » fit Balsamo, avec l'air d'un prophète inspiré. Le praticien, dominé comme Marat, comme le malade, comme tout le monde, approcha l'acier de la chair. La chair cria, mais le malade ne poussa pas un soupir, ne fit pas un mouvement. « De quel pays êtes-vous, mon ami ?» demanda Balsamo. « Je suis breton, monsieur, » répondit le malade en souriant. « Et vous aimez votre pays ? Oh, monsieur, il est si beau !» Le chirurgien faisait pendant ce temps les incisions circulaires à l'aide desquelles, dans les amputations, on commence par mettre l'os à découvert. « L'avez-vous quitté jeune ?» demanda Balsamo. « À 10 ans, monsieur. » Les incisions étaient faites. Le chirurgien approchait la scie de l'os. « Mon ami, dit Balsamo, chantez-moi donc cette chanson que les sauniers de Batz chantent en rentrant le soir après la journée faite. Je me rappelle le premier vers. À mon sel couvert d'écume, la scie mordait les os. Mais à l'invitation de Balsamo, le malade sourit et commença à chanter mélodieusement, lentement, en extase, comme un amant ou comme un poète. À mon sel couvert d'écume, à mon lac couleur du ciel, à mon four tourbe qui fume, à mon sarrasin de miel, à ma femme, à mon vieux père, à mes enfants bien-aimés, à la tombe où dort ma mère sous les genêts parfumés. Salut, la journée est faite et me voici de retour après le labeur, la fête, après l'absence, l'amour. La jambe tomba sur le lit que le malade chantait encore. Chacun regardait le patient avec étonnement, le médecin avec admiration. Il en fut qui dire que deux étaient fous. Marat traduisit cette opinion à l'oreille de Balsamo. « La terreur a fait perdre l'esprit au pauvre diable, dit-il, voilà pourquoi il ne souffre plus. « Je ne crois pas, dit Balsamo, et bien loin qu'il ait perdu l'esprit, je suis sûr, si je l'interrogeais, qu'il nous dirait s'il doit mourir le jour de sa mort et s'il doit vivre le temps que durera sa convalescence. » Marat fut prêt de partager l'opinion générale, c'est-à-dire de croire que Balsamo était aussi fou que le patient. Cependant, le chirurgien liait activement les artères d'où s'échappaient des flots de sang. Balsamo tira de sa poche un flacon, versa sur un tampon de charpie quelques gouttes d'eau que ce flacon renfermait et pria le chirurgien en chef d'appliquer cette charpie sur les artères. Celui-ci obéit avec une certaine curiosité. C'était un des plus célèbres praticiens de cette époque, un homme vraiment amoureux de la science, qui ne répudiait aucun de ses mystères et pour qui le hasard n'était que le pis-aller du doute. Il appliqua le petit tampon sur l'artère qui frémit, bouillonna et ne laissa plus passer de sang que goutte à goutte. Dès lors, il put lier l'artère avec la plus grande facilité. Pour le coup, Balsamo obtint un véritable triomphe, et chacun lui demanda où il avait étudié et de quelle école il était. « Je suis un médecin allemand, de l'école de Göttingen, dit-il, et je fais la découverte que vous voyez. Je désire cependant, messieurs, chers confrères, que cette découverte demeure encore un secret, car j'ai grand peur du fagot, et le Parlement de Paris se déciderait peut-être à juger encore une fois pour le plaisir de condamner un sorcier au feu. » Le chirurgien en chef demeurait rêveur. Marat rêvait et réfléchissait. Cependant, il reprit le premier la parole. « Vous prétendiez, dit-il tout à l'heure, que si vous interrogiez cet homme sur le résultat de cette opération, il répondrait sûrement, quoique ce résultat soit encore caché dans l'avenir. »« Je le prétends encore, » dit Balsamo. « Eh bien, voyons. Comment s'appelle-t-il, ce pauvre diable ?»« Il s'appelle Avare, » répondit Marat. Balsamo se retourna vers le patient dont la bouche fredonnait encore les dernières notes du plaintif refrain. « Eh bien, mon ami, lui demanda-t-il, qu'augurez-vous de l'état de ce pauvre avare ?»« Ce que j'augure de son état, répondit le malade. Attendez, il faut que je revienne de la Bretagne où j'étais à l'Hôtel Dieu, où il est. C'est cela, entrez-y, regardez-le et dites-moi la vérité sur lui. » « Oh, il est malade, bien malade, on lui a coupé la jambe. »« En vérité ?» demanda Balsamo. « Oui, et l'opération a-t-elle bien réussi ?»« À merveille, mais... » La figure du malade s'assombrit. « Mais ?» reprit Balsamo. « Mais, continua le malade, il y a une terrible épreuve à passer, la fièvre. »« Et quand viendra-t-elle »« Ce soir, à 7 heures. » tous les assistants se regardèrent. « Et cette fièvre ? » demanda Balsamo. « Oh, elle le rendra bien malade. Il surmontera cependant son premier accès. »« Vous en êtes sûr ?»« Oh oui. »« Mais après ce premier accès, sera-t-il sauvé ?»« Hélas, non, » dit le blessé en soupirant. « La fièvre reviendra donc. »« Oh oui, plus terrible que jamais. »« Ah, pauvre avare » continua-t-il. « Pauvre avare, il a une femme et des enfants. » Et ses yeux se remplirent de larmes. « Et sa femme doit-elle donc être veuve, et ses enfants doivent-ils donc être orphelins ?» demanda Balsamo. « Attendez, attendez !» il joignit les mains. « Non, non, » dit-il. Son visage s'éclaira une foi sublime. « Non, sa femme et ses enfants ont tant prié qu'ils ont obtenu grâce pour lui, devant Dieu. Alors il guérira ?»« Oui. »« Vous entendez, messieurs ?» dit Balsamo. « Il guérira. » « Demandez-lui en combien de jours, » dit Marat. « En combien de jours ?»« Oui, vous avez dit qu'il indiquerait lui-même les phases et le terme de sa convalescence. »« Je ne demande pas mieux que de l'interroger là-dessus. »« Interrogez-le donc, alors. »« Et quand croyez-vous que Avar sera guéri ?» demanda Balsamo. « Oh, la convalescence sera longue. Attendez, un mois, 6 semaines, 2 mois et 15 jours après y être entré. »« Et il en sortira guéri ?»« Oui. » »« Mais, » dit Marat, « incapable de travailler et par conséquent de nourrir sa femme et ses enfants. »« Oh, Dieu est bon et Dieu y pourvoira. » Et comment Dieu y pourvoira-t-il ? Demanda Marat. Pendant que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, je voudrais bien apprendre cela. Dieu a envoyé près de son lit un homme charitable qu'il a pris en pitié et qui lui a dit tout bas, « Je veux que le pauvre avare ne manque de rien. » Tous les assistants se regardèrent. Balsamo sourit. « En vérité, nous assistons à un étrange spectacle, » dit le chirurgien en chef en même temps qu'il saisissait la main du malade, auscultait sa poitrine et palpait son front. « Cet homme rêve !»« Vous croyez ?» dit Balsamo. Et lançant au blessé un regard plein d'autorité et d'énergie, « Éveillez-vous, avare !» lui dit-il. Le jeune homme rouvrit les yeux avec effort et regarda avec une profonde surprise tous les assistants, devenus pour lui inoffensifs de menaçants qu'ils étaient. « Eh bien, » dit-il douloureusement, « on ne m'a donc pas encore opéré, on va donc encore me faire souffrir ?» Balsamo prit vivement la parole, il craignait l'émotion du malade, il n'était pas besoin qu'il se hâtât. Nul ne lui devançait, la surprise des assistants était trop grande. Mon ami, lui dit-il, tranquillisez-vous. Monsieur le chirurgien en chef a pratiqué sur votre jambe une opération qui satisfait à toutes les exigences de votre position. Il paraît, mon pauvre garçon, que vous êtes un peu faible d'esprit, car vous vous êtes évanoui pendant la première attaque. « Oh, tant mieux !» dit gaiement le breton. « Je n'ai rien senti. Mon sommeil a même été doux et réparateur. Quel bonheur ! On ne me coupera pas la jambe !» Mais en ce moment... Le malheureux porta ses regards sur lui-même. Il vit le lit plein de sang, il vit sa jambe mutilée. Il jeta un cri et, cette fois, s'évanouit véritablement. « Interrogez-le maintenant, » dit froidement Balsamo à Marat, « et vous verrez, il répond. » Puis, entraînant le chirurgien en chef dans un coin de la chambre, tandis que les infirmiers reportaient le malheureux jeune homme dans son lit, « Monsieur, » dit Balsamo, « vous avez entendu ce qu'a dit votre pauvre malade. »« Oui, monsieur, qu'il guérirait. » Il a dit encore autre chose. Il a dit que Dieu le prendrait en pitié et lui enverrait de quoi nourrir sa femme et ses enfants. « eh bien, monsieur, il a dit la vérité sur ce point comme sur l'autre. Seulement chargez-vous d'être un intermédiaire de charité entre votre malade et Dieu. » « Voilà un diamant qui vaut 20 000 livres à peu près. Quand vous verrez votre malade guéri, vous le vendrez et vous lui en remettrez l'argent. En attendant, comme l'âme, ainsi que me le disait fort judicieusement votre élève, Monsieur Marat, comme l'âme a une grande influence sur le corps, dites bien à Avare, aussitôt que la connaissance sera revenue, dites-lui bien que son avenir et celui de ses enfants est assuré. » « Mais, monsieur, » dit le chirurgien, hésitant à prendre la bague que lui offrait Balsamo, « s'il ne guérit point, il guérira. En faut-il que je vous donne un reçu ?»« Monsieur, ah, ce n'est qu'à cette condition que je prendrai un bijou d'une pareille valeur. Oh, faites comme il vous plaira, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît ? Le comte de Phénix. » Le chirurgien passa dans la chambre voisine, tandis que Marat, anéanti, confondu, mais luttant encore contre l'évidence, se rapprochait de Balsamo. Au bout de 5 minutes, le chirurgien rentra, tenant à la main un papier qu'il remit à Balsamo. C'était un reçu conçu en ces termes. « J'ai reçu de monsieur le comte de Phénix un diamant qu'il a déclaré lui-même être d'une valeur de 20 000 livres pour le prix en être remis au nommé Havard le jour où il sortira de l'Hôtel Dieu. Signé Guillotin, ce 15 septembre 1771. » Balsamo salua le docteur, prit le reçu et sortit, suivi de Marat. « Vous oubliez votre tête, » dit Balsamo, pour lequel la distraction du jeune élève en chirurgie était un triomphe. « Ah, c'est vrai, » dit celui-ci, et il ramassa son funèbre fardeau. Une fois dans la rue, tous deux marchèrent, fort vite et sans se dire un seul mot. Puis, arrivés à la rue des Cordeliers, ils remontèrent ensemble le rude escalier qui conduisait à la mansarde. Devant la loge de la portière, si toutefois le trou qu'elle habitait méritait le nom de loge, Marat, qui n'avait pas oublié la disparition de sa montre, s'était arrêté et avait demandé Dame Grivette. Un enfant de 7 à 8 ans, maigre, chétif et étiolé, lui avait répondu de sa criarde « Maman, elle est sortie, elle a dit que si monsieur rentrait, on lui donna cette lettre. » « Non, mon petit ami, » dit Marat, « tu lui diras qu'elle me la porte elle-même. »« Bien, monsieur. » Marat et Balsamo avaient continué leur chemin. « Ah !» dit Marat, en indiquant une chaise à Balsamo et en tombant lui-même sur un escabeau, « je vois que le maître a de beaux secrets. C'est que je suis entré plus avant qu'un autre, peut-être, dans la confidence de la nature et de Dieu, » répondit Balsamo. « Oh !» s'écria Marat, « comme la science prouve l'omnipotence de l'homme et qu'on doit être fier d'être homme !» C'est vrai, et médecin, devriez-vous ajouter. Aussi, je suis fier de vous, maître, dit Marat. Cependant, expliqua Balsamo en souriant, je ne suis qu'un pauvre médecin des âmes. Oh, ne parlons pas de cela, monsieur, vous qui avez arrêté le sang du blessé par des moyens matériels. Je croyais que ma plus belle cure était de l'avoir empêché de souffrir. Il est vrai que vous m'avez assuré qu'il était fou. Il a été un moment, certes. Qu'appelez-vous une folie? N'est-ce point une abstraction de l'âme ou de l'esprit? Dit Marat. Nous ne discuterons pas là-dessus. L'âme me sert à nommer le mot que je cherche, du moment que la chose est trouvée, peu importe comment vous l'appelez. Ah, voilà en quoi nous différons d'opinion, monsieur. Vous prétendez avoir trouvé la chose et ne plus chercher que le mot. Moi, je soutiens que vous cherchez tout ensemble la chose et le mot. « Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Vous disiez donc que la folie est une abstraction momentanée de l'esprit. Assurément. Involontaire, n'est-il pas? Oui, j'ai vu un fou à Bicêtre qui mordait ses barreaux de fer en criant « Cuisinier, tes faisans sont tendres, mais ils sont mal accommodés. » Mais enfin, admettez-vous que cette folie passe comme un nuage sur l'esprit et que le nuage passé, l'esprit reprenne sa limpidité première? « Oh, cela n'arrive presque jamais. Vous avez vu cependant notre amputé, en parfaite raison, après son sommeil de fou. Je l'ai vu, mais je n'ai point compris ce que je voyais. C'est un cas exceptionnel, une de ces étrangetés que les Hébreux appelaient des miracles. « Non, monsieur, » dit Balsamo, « c'est uniquement l'abstraction de l'âme, le double isolement de la matière et de l'esprit. » De la matière, chose inerte, poussière qui retournera en poussière, de l'âme, étincelle divine, enfermée un instant dans cette lanterne sourde qu'on appelle le corps et qui, fille du ciel, après la chute du corps, retournera au ciel. Alors vous avez tiré momentanément l'âme du corps? Oui, monsieur, je lui ai ordonné de quitter l'endroit misérable où elle était, je l'ai extraite du gouffre de souffrance où la douleur la retenait, pour la faire voyager dans des régions libres et pures, Qu'est-il donc resté au chirurgien, ce qui restait à votre scalpel quand vous enlevâtes à la femme morte cette tête que vous tenez rien que de la chair inerte, de la matière, de l'argile? Et au nom de qui avez-vous disposé ainsi de cette âme? Au nom de celui qui a créé toutes les âmes d'un souffle, âme des mondes, âme des hommes, au nom de Dieu. Alors, dit Marat, vous niez le libre arbitre? Moi, dit Balzabo, mais que fais-je donc en ce moment? Au contraire, je vous montre d'un côté le libre arbitre, de l'autre l'abstraction. Je vous expose un mourant laissé à toutes les souffrances. Cet homme a une âme toute stoïque, il va au devant de l'opération, il la provoque, il la supporte, mais il souffre. Voilà pour le libre arbitre. Mais je passe près de ce mourant, moi, l'envoyé de Dieu, moi, le prophète, moi, l'apôtre, et si, prenant en pitié cet homme, mon semblable, j'enlève, par le pouvoir que le Seigneur m'a donné, l'âme de son corps qui souffre, ce corps aveugle, inerte, insensible, devient pour l'âme un spectacle qu'elle contemple pieusement et miséricordieusement du haut de sa sphère limpide. Avare, ne l'avez-vous point entendu? Avare, quand il parlait de lui-même, disait « ce pauvre avare ». Il ne disait plus « moi ». C'est qu'en effet, cette âme n'avait plus affaire à ce corps, elle qui était à moitié au chemin du ciel. Mais à ce compte, l'homme n'est plus rien, dit Marat, et je ne puis plus dire au tyran « vous avez puissance sur mon corps, mais vous ne pouvez rien sur mon âme ». Ah, voilà que vous passez de la vérité au sophisme, monsieur. Je vous l'ai dit, c'est votre défaut. Dieu prête l'âme au corps, il est vrai, mais il n'en est pas moins vrai que tout le temps que l'âme possède ce corps, il y a union entre influence de l'un sur l'autre, suprématie de la matière sur l'idée, selon que, dans des vues qui nous sont inconnues, Dieu a permis que le corps fût roi ou que l'âme fût reine. Mais il n'en est pas moins vrai que le souffle qui anime le mendiant est aussi pur que celui qui fait mourir le roi. Voilà le dogme que vous devez prêcher, vous, l'apôtre de l'égalité. Prouvez l'égalité de deux essences spirituelles, puisque cette égalité, vous pouvez l'établir à l'aide de tout ce qu'il y a de sacré au monde, les livres saints et les traditions, la science et la foi. Que vous importe l'égalité des deux matières ? Avec l'égalité des corps, vous ne volez pas devant Dieu. Tout à l'heure, ce pauvre blessé, cet ignorant enfant du peuple, vous a dit, touchant son mal, des choses que nul parmi les médecins n'eût osé dire. Pourquoi cela? C'est que son âme, dégagée momentanément des liens du corps, a plané au-dessus de la terre et qu'elle a vu d'en haut un mystère que nous dérobe son opacité. Marat tournait et retournait sur la table, sa tête de mort, cherchant une réponse qu'il ne trouvait pas. « Oui, murmura-t-il enfin, oui, il y a quelque chose de surnaturel là-dessous. » « De naturel, au contraire, monsieur. Cessez d'appeler surnaturel tout ce qui ressort des fonctions de la destinée de l'âme. Naturelles sont ses fonctions. Connues, c'est autre chose. » Inconnu à nous, maître, ces fonctions ne doivent pas être des mystères pour vous. Le cheval, inconnu des Péruviens, était familier aux Espagnols qui l'avaient dompté. Oh, ce serait orgueilleux à moi de dire « je sais ». Je suis plus humble, monsieur, je dis « je crois ». Eh bien, que croyez-vous ? Je crois que la loi du monde, la première, la plus puissante de toutes, est celle du progrès. Je crois que Dieu n'a rien créé que dans un but de bien-être ou de moralité. Seulement, comme la vie de ce monde est incalculée et incalculable, le progrès est lent. Notre planète, au dire des Écritures, comptait 60 siècles quand l'imprimerie est venue, comme un vaste phare, réfléchir le passé et éclairer l'avenir. Avec l'imprimerie, plus d'obscurité, plus d'oubli. L'imprimerie, c'est la mémoire du monde. Bien, Gutenberg a inventé l'imprimerie et moi, j'ai retrouvé la confiance. Ah, dit ironiquement Marat, vous en arriverez peut-être à lire dans les cœurs. Pourquoi pas ? Alors vous ferez pratiquer à la poitrine de l'homme cette petite fenêtre que désiraient tant y voir les anciens. Il n'est pas besoin de cela, monsieur. J'isolerai l'âme du corps, et l'âme, fille pure, fille immaculée de Dieu, me dira toutes les turpitudes de cette enveloppe mortelle qu'elle est condamnée à animer. Vous révélerez les secrets matériels, mais pourquoi pas? Vous me direz par exemple qui m'a volé ma montre. Vous abaissez la science à un triste niveau, monsieur, mais n'importe, la grandeur de Dieu est aussi bien prouvée par le grain de sable que par la montagne, par le ciron que par l'éléphant. Oui, je vous dirai qui vous a volé votre montre. En ce moment, on frappa timidement à la porte. C'était la femme de ménage de Marat qui était rentrée et qui, selon l'ordre donné par le jeune chirurgien, apportait la lettre. La porte s'ouvrit et donna passage à Dame Grivette. Cette femme que nous n'avons pas pris le temps d'esquisser parce que sa figure était de celle que le peintre relègue au dernier plan tant qu'il n'a pas besoin d'elle, cette femme s'avance maintenant dans le tableau mouvant de cette histoire et demande à prendre sa place dans l'immense panorama que nous avons entrepris de dérouler aux yeux de nos lecteurs. Le panorama dans lequel nous encadrerions, si notre génie égalait notre volonté, depuis le mendiant jusqu'au roi, depuis Caliban jusqu'à Ariel, depuis Ariel jusqu'à Dieu. Nous allons donc essayer de crayonner Dame Grivette qui se détache de son ombre et qui s'avance vers nous. C'était une longue et sèche créature de 32 à 33 ans, jaune de couleur avec des yeux bleus bordés de noir, type effrayant du dépérissement que subissent à la ville dans des conditions de misère, l'asphyxie incessante et la dégradation physique et morale, ces créatures que Dieu a faites belles et qui fussent devenues magnifiques dans leur entier développement, comme le sont en ce cas toutes les créatures de l'air, du ciel et de la terre, quand l'homme n'a pas fait de leur vie un long supplice, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas fatigué leurs pieds avec l'entrave et leur estomac avec la faim ou avec une nourriture presque aussi fatale que pour l'être l'absence de toute nourriture. Ainsi, la portière de Marat eût été une belle femme si, depuis l'âge de 15 ans, elle n'habitait un taudis, sans air et sans jour, si le feu de ses instincts naturels, alimenté par cette chaleur de four ou par un froid de glace, eût sans cesse brûlé avec mesure. Elle avait de longues mains maigres que le fil de la couturière avait sillonnées de petites coupures, que l'eau savonneuse de la buanderie avait crevassée et amollie, que la braise de la cuisine avait rôti et tanné. Mais malgré tout cela, des mains, on le voyait à la forme, c'est-à-dire à cette trace indélébile du moule divin, des mains qu'on eût appelées des mains royales, si, au lieu des ampoules du balai, elles eussent eu celles du sceptre. Tant il est vrai que ce pauvre corps humain n'est que l'enseigne de notre profession. Dans cette femme, l'esprit supérieur au corps et qui, par conséquent, avait mieux résisté que lui, l'esprit veillait comme une lampe. Il éclairait, pour ainsi dire, le corps par un reflet diaphane et parfois on voyait monter à des yeux hébétés et ternis un rayon de l'intelligence, de la beauté, de la jeunesse, de l'amour, de tout ce qu'il y a d'exquis, enfin, dans la nature humaine. Balsamo regarda longuement cette femme, ou plutôt cette nature singulière qui, au reste, avait, dès la première vue, frappé son œil observateur. La portière entra donc, tenant la lettre à la main, et d'une voix doucereuse, d'une voix de vieille femme, car les femmes condamnées à la misère sont vieilles à 30 ans. « Monsieur Marat, dit-elle, voici la lettre que vous avez demandée. » « Ah, ce n'est pas la lettre que je désirais voir, c'est vous que je voulais voir, » dit Marat. « Eh bien, votre servante, monsieur Marat, me voici. » Dame Grivette fit une révérence. « Que désirez-vous ? » « Je désire avoir des nouvelles de ma montre, » dit Marat. « Vous vous en doutez bien. » « Ah, dame, ça, je ne peux pas dire ce qu'elle est devenue. Je l'ai vue hier toute la journée, pendue à son clou, à la cheminée. » Vous vous trompez, toute la journée, elle a été dans mon gousset. Seulement, à 6 heures du soir, comme je sortais, comme j'allais au milieu d'une grande foule, comme je craignais qu'on me la volât, je l'ai mise sous le chandelier. Mais si vous l'avez mise sous le chandelier, elle doit y être encore. Et la portière, avec une bonhomie feinte qu'elle ne se doutait pas être si puissamment révélatrice, alla lever, justement, des deux chandeliers qui ornaient la cheminée, celui sous lequel Marat avait caché la montre. « Oui, voilà bien le chandelier, dit le jeune homme, mais la montre ?»« Ah non, en vérité, elle n'y est plus. Est-ce que vous ne l'aviez pas mise là, monsieur Marat ?»« Mais lorsque je vous le dis, cherchez bien. »« Oh, j'ai cherché, dit Marat, avec un regard courroucé. »« Vous l'aurez perdue, alors. »« Mais je vous dis qu'hier, moi-même, je l'ai mise là, sous ce chandelier. » « Ah, quelqu'un alors sera entré ici, dit Dame Grivette. Vous recevez tant de gens, tant d'inconnus. »« Prétexte, prétexte !» s'écria Marat, s'emportant de plus en plus. « Vous savez bien que personne n'est entré depuis hier. Non, non, ma montre a pris le chemin qu'a pris la pomme d'argent de ma dernière canne, qu'a pris cette petite cuillère d'argent que, vous savez, qu'a pris mon couteau à six lames. On me vole, Dame Grivette, on me vole. Ah, j'ai supporté bien des choses, mais je ne supporterai pas celle-là, prenez-y garde. » « Mais, monsieur, dit Dame Grivette, est-ce que vous m'accuseriez, par hasard ? Vous devez surveiller mes effets. Je n'ai pas seule la clé. Vous êtes la portière. Vous me donnez un écu par mois, et vous voudriez être servi comme par 10 domestiques. Il importe peu d'être mal servi, il m'importe fort de n'être pas volé. Monsieur, je suis une honnête femme. » Une honnête femme que je livrerai au commissaire de police si, d'ici 1 heure, ma montre n'est pas retrouvée. Au commissaire de police? Oui. Au commissaire de police, une honnête femme comme moi. une honnête femme. Oui, et sur laquelle il n'y a rien à dire, entendez-vous? Allons, assez, Dame Grivette. Ah, je me doutais déjà que vous me soupçonniez quand vous êtes sortie. Je vous soupçonne depuis la disparition du pommeau de ma canne. « Eh bien, moi, je vous dirai une chose, monsieur Marat, à mon tour. »« Laquelle ?»« C'est que, pendant votre absence, j'ai consulté... »« Qui cela ?»« Mes voisins. »« À quel propos ?»« À ce propos que vous me soupçonniez. »« Je ne vous en avais rien dit encore. »« Je le voyais bien. » »« Et les voisins ? Je suis curieux de savoir ce qu'ils vous ont dit, les voisins. » Ils ont dit que si vous me soupçonniez et que si vous aviez le malheur de faire part de vos soupçons à quelqu'un, il faudrait aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est-à-dire prouver que la montre a été prise. Elle a été prise puisqu'elle était là et qu'elle n'y est plus. Oui, mais par moi, prise par moi, entendez-vous? Mais c'est que devant la justice, il faut des preuves. C'est qu'on ne vous croira pas sur parole, monsieur Marat, c'est que vous n'êtes pas plus que nous, monsieur Marat. Balsamo, calme comme toujours, regardait toute cette scène. Il voyait que, quoique la conviction de Marat n'eût point changé, il baissait le ton. Si bien, continua la portière, que si vous ne rendez pas justice à ma probité, voyez-vous que si vous ne me faites pas réparation, c'est moi qui irai chercher le commissaire de police, comme notre propriétaire me le conseillait encore tout à l'heure. Marat se mordit les lèvres. Il savait qu'il y avait là un danger réel. Le propriétaire était un vieux marchand, retiré, riche des affaires. Il occupait l'appartement du 3e. Et la chronique scandaleuse du quartier prétendait que, quelques 10 ans auparavant, il avait fort protégé la portière, autrefois fille de cuisine chez sa femme. Or, Marat, ayant des fréquentations mystérieuses, Marat, jeune homme assez peu rangé, Marat, un peu caché, Marat, un peu suspect aux gens de police, ne se souciait pas d'une affaire avec le commissaire, affaire qu'il eût mis entre les mains de monsieur de Sartines, lequel aimait fort à lire les papiers des jeunes gens comme Marat et envoyait les auteurs de ces beaux papiers dans ces maisons de méditation qu'on appelle Vincennes, La Bastille, Charenton et Bicêtre. Marat baissa donc le ton. Mais à mesure qu'il le baissait, la portière haussait le sien. D'accusée, elle s'était faite accusatrice. Il en résulta que cette femme, nerveuse et hystérique, s'emporta comme une femme qui vient de trouver un courant d'air. Menaces, jurements, cris, larmes, elle employa tout. Ce fut une véritable tempête. Alors Balsamo jugea qu'il était temps d'intervenir. Il fit un pas vers cette femme, debout et menaçante au milieu de la chambre, et, la regardant avec un sinistre éclat, il lui présenta deux doigts à la poitrine, en prononçant, non pas avec les lèvres, mais avec les yeux, avec la pensée, avec sa volonté tout entière, un mot que Marat ne put entendre. Aussitôt, Dame Grivette se tut, chancela, et, perdant l'équilibre, elle alla reculons, les yeux effroyablement dilatés, écrasés sous la puissance du fluide magnétique, tombée sur le lit sans prononcer une seule parole. Bientôt, ses yeux se fermèrent et s'ouvrirent, mais sans que cette fois on vît la prunelle. Sa langue remua convulsivement, le torse ne bougea point, et cependant ses mains tremblèrent, comme secouées par la fièvre. « Oh, dit Marat, comme le blessé de l'hôpital !»« Oui, elle dort donc ?»« Silence, dit Balsamo. » Puis, s'adressant à Marat, « Monsieur, dit-il, voilà le moment où toutes vos incrédulités vont cesser, toutes vos hésitations s'évanouir. Ramassez cette lettre que vous apportait cette femme et qu'elle a laissée tomber lorsqu'elle s'est échappée. » Marat obéit. « Eh bien, demanda-t-il, attendez, et prenant la lettre des mains de Marat, « Savez-vous de qui vient cette lettre ?» demanda Balsamo, la présentant à la somnambule. « Non, monsieur, répliqua-t-elle. » Balsamo approcha la lettre toute fermée de cette femme. « Lisez-la pour monsieur Marat, qui désire savoir ce qu'elle contient. »« Elle ne sait pas lire, » dit Marat. « Oui, mais vous savez lire, vous. Ben, »« Sans doute. »« Eh bien, lisez-la, et elle lira de son côté au fur et à mesure que les mots se graveront dans votre esprit. » Marat se mit à décacheter la lettre et à la lire, tandis que Dame Grivette, debout et frissonnante sous la volonté toute puissante de Balsamo, répétait, au fur et à mesure que Marat les lisait lui-même, les paroles suivantes. « Mon cher Hippocrate, Appel vient de faire ton premier portrait, il l'a vendu 50 francs, on mange aujourd'hui ces 50 francs à la buvette de la rue Saint-Jacques. En es-tu ? Il est bien entendu qu'on en boit une partie, ton ami David. » C'était textuellement ce qui était écrit. Marat laissa tomber le papier. « Eh bien, dit Balsamo, vous voyez que Dame Grivette a aussi une âme et que cette âme veille lorsqu'elle dort. » « Une âme étrange, dit Marat, une âme qui sait lire quand le corps ne le sait pas. » « Parce que l'âme sait toute chose, parce que l'âme peut reproduire par réflexion. » Essayez de lui faire lire cette lettre quand elle sera réveillée, c'est-à-dire quand le corps aura enveloppé l'âme de son ombre, et vous verrez. » Marat restait sans parole. Toute sa philosophie matérialiste se révoltait en lui, mais ne trouvait pas une réponse. « Maintenant, continua Balsamo, nous allons passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire à ce qu'est devenu votre montre. » « Dame Grivette, dit Balsamo, qui a pris la montre de monsieur Marat ?» La somnambule fit un geste de violente dénégation. « Je ne sais pas, dit-elle. »« Vous le savez parfaitement, insista Balsamo, et vous le direz. » Puis, avec une volonté plus forte encore, « Qui a pris la montre de monsieur Marat ?» dites. Dame Grivette n'a pas volé la montre de monsieur Marat. Pourquoi monsieur Marat croit-il que c'est Dame Grivette qui a volé sa montre ?» « Si ce n'est pas elle qui a volé la montre, dites qui ?»« Je l'ignore. »« Vous voyez, dit Marat, la conscience est un refuge impénétrable. »« Eh bien, puisque vous n'avez plus que ce dernier doute, monsieur, dit Balsamo, vous allez bientôt être convaincu. » Et puis, se retournant vers la portière, « Dites qui ? Je le veux. »« Allons, allons, dit Marat, n'exigez pas l'impossible. » « Vous avez entendu, dit Balsamo, j'ai dit que je voulais. » Alors, sous l'expression de cette impérieuse volonté, la malheureuse femme commença, comme une folle, à se tordre les mains et les bras. Un frémissement pareil à celui de l'épilepsie commença de lui courir par tout le corps. Sa bouche prit une expression hideuse de terreur et de faiblesse. Elle se renversa en arrière, se raidit comme dans une convulsion douloureuse et tomba sur le lit. « Non, non, dit-elle, j'aime mieux mourir !»« Eh bien, dit Balsamo avec une colère qui fit jaillir la flamme de ses yeux, tu mourras s'il le faut, mais tu parleras. Ton silence et ton obstination seraient pour nous de suffisants indices, mais pour un incrédule, il faut la preuve la plus irréfragable. Parle, je le veux, qui a pris la montre ? L'exaspération nerveuse était portée à son comble. Tout ce que la somnambule avait de force et de pouvoir réagissait contre la volonté de Balsamo. Des cris inarticulés sortaient de sa bouche, une écume rougeâtre frangea ses lèvres. « Elle va tomber en épilepsie, » dit Marat. « Ne craignez rien, c'est le démon du mensonge qui est en elle et qui ne veut pas sortir. » Puis, se tournant vers la femme en lui jetant à la face tout ce que sa main pouvait contenir de fluide, « Parlez, » dit-il, « parlez, qui a pris la montre ?»« Dame Grivette, » répondit la somnambule d'une voix à peine intelligible. « Et quand l'a-t-elle prise ?»« Hier au soir. » »« Où était-elle ?»« Sous le chandelier. » »« Et qu'en a-t-elle fait ?» Elle l'a portée rue Saint-Jacques. En quel endroit de la rue Saint-Jacques ? Au numéro 29. À quel étage ? Au 5e. Chez qui ? Chez un garçon cordonnier. Comment s'appelle-t-il ? Simon. Qu'est-ce que cet homme ? La somnambule se tut. Qu'est-ce que cet homme ? Répéta Balsamo. Même silence. Balsamo étendit vers elle sa main imprégnée de fluide, et la malheureuse, écrasée par cette attaque terrible, n'eut que la force de murmurer « Son amant ». Marat poussa un cri d'étonnement. « Silence, dit Balsamo, laissez la conscience parler. » Puis, continuant de s'adresser à la femme toute tremblante et toute inondée de sueur, « Et qui a conseillé ce vol à Dame Grivette » demanda-t-il. Personne. Elle a soulevé le chandelier par hasard, elle a vu la montre, alors le démon l'a tentée. Était-ce par besoin ? Non, car la montre, elle ne l'a pas vendue. Elle l'a donc donnée ? Oui. Simon ? La somnambule fit un effort. Ah, Simon. Puis elle couvrit son visage de ses deux mains et versa un torrent de larmes. Balsamo jeta un regard sur Marat, qui, la bouche béante, les cheveux en désordre, les paupières dilatées, contemplait cet effarant spectacle. « Eh bien, monsieur, dit-il, vous voyez enfin la lutte de l'âme avec le corps. Voyez-vous la conscience forcée comme dans une redoute qu'elle croyait inexpugnable? Croyez-vous enfin que Dieu n'a rien oublié dans ce monde et que tout est dans tout ? Ne niez donc plus la conscience, ne niez donc plus l'âme, ne niez donc plus l'inconnu, jeune homme. Surtout, ne niez pas la foi qui est le pouvoir suprême. Et puisque vous avez de l'ambition, étudiez, monsieur Marat. Parlez peu, pensez beaucoup, et ne vous laissez plus aller à juger légèrement vos supérieurs. Adieu, vous avez un champ bien vaste ouvert par mes paroles. Fouillez ce champ qui renferme des trésors. Adieu, heureux, bien heureux, si vous pouvez vaincre le démon de l'incrédulité qui est en vous, comme j'ai vaincu celui des mensonges qui est dans cette femme. » Il partit sur ces mots qui firent monter aux joues du jeune homme la rougeur de la honte. Marat ne songea même point à prendre congé de lui. Mais après la première stupeur, il s'aperçut que Dame Grivette dormait toujours. Ce sommeil lui parut épouvantable. Marat eût préféré avoir un cadavre sur son lit, dû Monsieur de Sartine interpréter cette mort à sa façon. Il regarda cette atonie, ses yeux retournés, ses palpitations, et il eut peur. Sa peur s'accrut encore quand le cadavre vivant se leva, vint lui prendre la main et lui dire « Venez avec moi, Monsieur Marat. » « Où cela ? Rue Saint-Jacques. »« Et pourquoi ? Venez, venez, il m'ordonne de vous y conduire. » Marat, qui était tombé sur une chaise, se leva. Alors Dame Grivette, toujours endormie, ouvrit la porte, descendit l'escalier comme eût fait un oiseau ou une chatte, c'est-à-dire en effleurant à peine les marches. Marat la suivit, craignant qu'elle ne tombât, et qu'en tombant, elle ne se brisât la tête. Arrivée au bas de l'escalier, elle franchit le seuil de la porte, traversa la rue, toujours suivie du jeune homme qu'elle guida ainsi jusque dans la maison au grenier signalé. Elle heurta à la porte, Marat sentait son cœur battre si violemment qu'il lui semblait qu'on dût l'entendre. Un homme était dans le grenier, il ouvrit, Dans cet homme, Marat reconnut un ouvrier de 25 à 30 ans qu'il avait vu parfois dans la loge de sa portière. En apercevant Dame Grivette suivie de Marat, il recula, mais la somnambule alla droit au lit et, passant sa main sous le maigre traversin, elle en tira la montre qu'elle remit à Marat, tandis que le cordonnier Simon, pâle d'effroi, n'osait articuler un mot et suivait d'un œil égaré jusqu'au moindre geste de cette femme qu'il croyait folle. À peine eut-elle touché la main de Marat en lui remettant la montre qu'elle poussa un profond soupir et murmura « Il m'éveille, il m'éveille ». En effet, tous ses nerfs se détendirent comme un câble abandonné par la poulie. Ses yeux reprirent l'étincelle vitale et, se trouvant en face de Marat, la main dans sa main, et tenant encore cette montre, c'est-à-dire la preuve irrécusable du crime, elle tomba évanouie sur les planches du grenier. La conscience existerait-elle réellement? Se dit Marat en sortant de la chambre avec le doute dans le cœur et la rêverie dans les yeux.